Où que vous soyez sur la planète, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 20h.
Adrien Delgrange.
Et au sommaire de cette édition internationale, il fait nuit en Birmanie. Les secours s'efforcent de sauver des vies après le terrible tremblement de terre qui a violemment secoué la Birmanie, mais aussi la Thaïlande et la Chine. L'actualité mondiale dominée par la reprise des bombardements israéliens au Liban. L'armée israélienne a visé des quartiers peuplés du sud de la capitale Beyrouth. Indignation d'Emmanuel Macron qui recevait aujourd'hui à Paris le président libanais. Au sommaire également, en arrivant au Groenland, Jedi Vance distribue les mauvais points. Le Danemark n'a pas fait un bon travail. Première déclaration du vice-président américain en arrivant au Groenland. La justice en France, pour avoir brûlé vive sa femme à Mérignac, l'accusé vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Nous sommes pour cela au palais de justice de Bordeaux. Et puis enfin, juste après ce journal, Alexander Stubb, le président de Finlande, est l'invité d'ici l'Europe. 13 heures après les premières secousses, au moins 144 morts et 732 blessés en Birmanie. Le bilan n'est que provisoire. Un séisme de magnitude 7,7 a d'abord secoué le centre de la Birmanie. Puis les secousses ont été ressenties jusqu'en Chine et en Thaïlande. Témoignage d'un Français qui vit en Thaïlande, à Chiang Mai, à 450 km de l'épicentre. Régis Lévy est retraité. Il vit dans l'une des plus hautes tours de la ville.
J'ai vu à l'heure du déjeuner tout bouger autour de moi, les murs balançaient de droite à gauche, on a l'impression que les balancements étaient d'une amplitude de 50 cm. Il y avait des bruits sourds qui venaient des étages supérieurs, qui donnaient l'impression que l'immeuble était en train de s'effondrer, des bruits vraiment très inquiétants. On a des dégâts assez conséquents. On a des canalisations qui ont explosé, l'eau qui a envahi des couloirs et la réception. Un tremblement de terre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre précédemment.
Un témoignage recueilli par notre correspondante en Thaïlande, Carole Izou. En Birmanie, la junte au pouvoir a lancé depuis un rare appel à l'aide internationale après ce puissant tremblement de terre. Les États-Unis ont déjà répondu présent. L'état d'urgence en Birmanie a été déclaré dans 6 régions devant l'étendue des dégâts. Le séisme s'est produit au milieu de la faille de Segeng qui coupe la Birmanie en deux du nord au sud. La roche a été cassée à assez peu de profondeur, ce qui augmente encore la force des secousses. C'est ce que nous explique ce sismologue au CNRS, Christophe Vigny.
L'épicentre du séisme de ce matin n'est pas très profond, ce qui est tout à fait standard pour les séismes qui se produisent sur ce qu'on appelle les failles décrochantes à l'intérieur des continents. C'était le cas pour la Turquie il n'y a pas très longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, oui, ces séismes superficiels font des secousses à la surface qui sont encore plus fortes que s'ils étaient plus en profondeur. Un séisme continental, ça secoue 3 fois plus qu'un séisme dans l'océan et un séisme près de la surface, ça secoue 3 fois plus qu'un séisme plus loin de la surface. Donc vous êtes dans un continent, vous êtes près de la surface, c'est 10 fois plus fort comme secousse. Donc c'est vraiment très fort. Et la magnitude du séisme de ce matin est de 7,6, c'est très proche de 8. Donc c'est vraiment un très gros séisme qui a dû secouer très très fort. Et il est juste, l'épicentre est juste à côté de la grande ville de Mandalay. Donc je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup beaucoup de dégâts dans cette ville.
Le témoignage de Christophe Vigny, sismologue, propos recueillis par Lucille Gimbert. Le spectre d'un retour de la guerre au Liban, Israël a bombardé tôt ce matin la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, et ce pour la première fois après 4 mois de trêve. L'État hébreu dit avoir agi en riposte à des tirs de roquettes qui n'ont pas été revendiqués. Des tirs israéliens également dans le sud du Liban ont tué au moins 5 personnes. Pierre-Olivier, l'armée israélienne dit avoir frappé des infrastructures terroristes.
Un dépôt de drones à Hadat, au sud de Beyrouth, des rampes de lancement et des terroristes au sud du Liban. Voilà ce que l'armée israélienne affirme avoir visé lors de ses frappes ce vendredi matin, provoquant de vastes scènes de panique, notamment dans la banlieue sud de la capitale. L'armée libanaise, en charge d'enquêter sur ces frappes, a annoncé avoir découvert des rampes de lancement de roquettes installées à la limite nord du fleuve Litani, là où le Hezbollah est censé se retirer selon l'accord de cessez-le-feu. C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur de cet accord fin novembre que l'armée israélienne riposte à des tirs de roquettes. Déjà un peu plus tôt cette semaine, l'État hébreu avait été visé par des roquettes sans que ces tirs n'aient été revendiqués. En visite à Paris, le président libanais Joseph Aoun a assuré ce vendredi que d'après ses informations, tout indiquait que le Hezbollah n'était pas responsable. Emmanuel Macron a lui dénoncé des frappes inacceptables de la part d'Israël. De son côté, le premier ministre Benjamin Netanyahou a averti qu'Israël frapperait partout au Liban contre toute menace.
Pierre-Olivier dans ce journal international RFI à Paris, il est 20h05. Lui est arrivé à Pitoufik. J.D. Vance visite la seule base militaire américaine du Groenland, qui s'appelle Pitoufik. Voyage controversé après les allégations de Donald Trump voulant annexer ce territoire autonome qui appartient au Danemark. Devant les troupes américaines, le vice-président américain vient d'estimer que le Danemark n'a pas fait un bon travail pour la sécurité internationale. Vous avez sous-investi dans la population du Groenland et dans la sécurité de cette incroyable et magnifique masse continentale peuplée de gens. Incroyable, il faut que cela change. Fin de citation. L'actualité judiciaire en France à présent. La cour d'assises de la Gironde jugeait un féminicide. Shaïnès Daoud a été tuée, brûlée vive le 4 mai 2021 par le père de ses enfants, Mounir Bouta. Le verdict vient de tomber. Réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Noémie Leweller, vous êtes en direct de Bordeaux pour RFI. Noémie, c'est la peine maximale dont pouvait écoper Mounir Bouta.
Oui, elle en est souhaitée du verdict. Mounir Bouta est resté impassible, à l'image de son attitude pendant la grande partie de son procès qui se déroule depuis lundi à la cour d'assises de Gironde. Les jurés ont donc suivi en tout point les réquisitions du parquet, la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire qu'il ne pourra bénéficier d'aucun aménagement de peine pendant cette durée. L'accusé ayant été diagnostiqué paranoïaque, l'altération du discernement a été reconnue par les jurés sans pour autant entraîner de diminution de peine. Là encore, ils suivent l'avis de l'avocate générale. Elle parle d'un homme à la personnalité glaçante, calculateur, violent, dépourvu d'empathie. Elle souligne aussi la préméditation des faits. Le 4 mai 2021, Mounir Bouta s'installe à l'aube dans un fourgon qu'il a aménagé pour voir sans être vu. Il attend Shaïnès Daoud une dizaine d'heures, lui tire deux balles dans les jambes, l'asperge d'essence et met le feu. Pour les avocates de l'accusé, c'est une peine lourde, trop lourde, qui ne laisse aucun espoir de sortie à leur client.
Noémie Leweller, en direct de Bordeaux. L'actualité judiciaire aussi, c'est l'annonce de la mise en examen du rappeur Kobalade dans l'enquête sur l'évasion sanglante du narcotrafiquant Mohamed Amra. En 2022, il est présenté ce soir à un juge des libertés et de la détention. Et puis enfin, en France, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de baisser l'année dernière, mais cette baisse est trois fois moins importante qu'en 2023. Ce décrochage annoncé ce vendredi inquiète, parce que pour atteindre les objectifs que la France s'est elle-même fixés pour lutter contre le changement climatique, il faudrait au contraire accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Stéphanie Schuller.
Les deux secteurs les plus difficiles à décarboner en France sont les transports et le logement. Mais pour inciter la population à redoubler d'efforts, explique la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sur la chaîne TF1, ce n'est pas qu'une question de budget.
Puisque l'année dernière, on n'a pas consommé tout le budget qui était consacré à cette politique. C'est aussi une question de facilité pour aller vers ces dispositifs d'aide qui sont peut-être trop compliqués.
Simplifier et harmoniser les subventions disponibles ne suffira pourtant pas. Pour résoudre le problème, estime de son côté Anne Bringo, directrice de programme au réseau Action Climat.
Il faut aussi utiliser le levier réglementaire pour les ménages qui ont les moyens financiers de rénover leur logement ou de passer un petit véhicule électrique. Là, il faut passer vraiment à certaines formes d'obligations. Et en revanche, pour les ménages qui ont des bas revenus, qui n'ont pas accès à des travaux performants pour leur logement ou qui n'ont pas accès à l'achat d'un véhicule électrique, là, il faut des aides financières.
Lundi, un conseil de planification écologique aura lieu autour d'Emmanuel Macron. Les ONG réclament des mesures concrètes pour retrouver une trajectoire ambitieuse de baisse des émissions.
Ainsi se referme ce journal international informé. Information que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet rfi.fr. L'heure de retrouver ici l'Europe avec ce soir comme invité Alexander Stubb, président de Finlande.